petite idée, mais des questions intéressantes quand on lit un texte, un chapitre, un livre complet. Quand j'ouvre la parole, eh ben c'est bon de se poser, quand on a terminé de lire un chapitre, qu'est-ce que j'ai compris là-dedans, ou que j'ai pas compris, bien évidemment. Quel est le sens du texte que je viens de lire? Il y a des textes qui sont clairs dans la parole de Dieu, puis il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Quel est le thème clé du chapitre ou du passage que je viens de lire? On essaye un petit peu de... Comment dire? Je cherche le nom. De synthétiser, c'est pas mon fort. De faire une synthèse, de dire quel est le passage clé. S'il y a besoin, parce que... L'interprétation, si besoin, ce qui n'est pas écrit. On sait des fois qu'il y a besoin d'interpréter la parole de Dieu. Je ne suis pas un champion là-dedans, mais ça veut dire qu'il faut au moins se poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Si on ne sait pas répondre, poser des questions. Et puis le dernier point, je pense que j'ai mis en gras. En quoi cela me parle? Si vous oubliez toutes les questions qui sont avant, au moins la dernière, en quoi cela me parle? On dit tous, on le sait tous, que la parole de Dieu est un miroir pour chacun d'entre nous, qu'elle parle, et avec la puissance du Saint-Esprit que nous avons en nous, n'est-ce pas, cette parole de Dieu travaille et essaye d'incliner nos cœurs. Donc voilà, en quoi cela me parle. Et pendant ces deux études, on a essayé de partager un peu, de commenter des textes autour de Genèse 34 et 35. Tu peux passer au slide suivant, Maxime. Voilà. Je m'appelle Jacob. C'est volontairement. Alors, je ne sais pas, Jacob, ça ne se féminise pas. Je ne crois pas, mais bon. Imaginez-vous. Tu t'appelles Jacob. Tu t'appelles Jacobine. Vite, en hyper raccourci. Genèse 32, combat de Jacob avec l'ange de l'Éternel et, entre guillemets, conversion de Jacob. Chapitre 33, réconciliation de Jacob et d'Ésaü, conséquences. Regardez un petit peu toute la chronologie. Voilà. 34, vie sans Dieu, compromission. On va voir ça. Et chapitre 35, Dieu intervient, Jacob obéit, communion retrouvée. Voilà. Un petit peu le plan hyper court. Qui a lu jusqu'au bout de la nuit le chapitre 34 et le chapitre 35 de Genèse? Non, personne. Si, il y en a, j'avais envoyé la newsletter. C'est bien ça. Donc vous savez ça par cœur. Parfait. Parfait. Alors Genèse 34, je regarde la pendule. Genèse 34, ça commence fort, viol de Dina. C'est intéressant, petit clin d'œil. Il n'y a pas trop de jeunes filles là, mais bon, potentiellement. Le verset numéro 1, il dit « Dina, la fille de Léa, que Léa avait enfanté à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. » Et dans quel pays ils étaient? Dans le pays de Canaan. Et ce qui se passait en Canaan, c'était pas top. On est bien d'accord. Donc, vous voyez des petits détails. Elle décida d'aller quand même se balader dans des coins pas très sympathiques, quoi, on va dire ça, ou pas tellement en accordance avec ce que demandait Dieu. Petite parenthèse fermée. Alors, on peut noter un petit peu sa désenvolture. Qu'est-ce qui se passe un peu plus loin? Pour ceux qui ont lu un petit peu ce texte, qu'est-ce qui vous a interpellé là-dedans? Bon, c'est Jacob, le sujet principal. Jacob, il ne moufte rien. Il dit rien, Jacob. Il dit rien. D'accord? Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ et à son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à son retour. Jacob garda le silence. Un peu plus loin, qu'est-ce qu'on voit? Il explique ça à ses fils. Ses fils montrent un espèce de plan de vengeance humain, On est bien d'accord. Les autres, ils acceptent. Et Jacob, qu'est-ce qu'il dit? Il accepte. D'une certaine manière, il dit, ben, pourquoi pas? On est dans ce pays-là, on va essayer de faire un peu alliance avec eux. Il raisonne. Donc, il dit, il accepte le plan d'alliance avec les Cananéens. Qu'est-ce qui se passe un peu plus loin? On le voit, ruse et vengeance de Siméon et Lévi, ses deux fils. Encore une fois, il est au courant. Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il dit rien. Les autres, ils vont proposer un plan. Faut quand même... Quel plan tordu, quoi. Il va voir les ennemis, il leur dit, bah, de toute façon, ils n'avaient pas 50 solutions pour pouvoir intégrer le peuple et puis qu'on puisse faire alliance. Il faut vous faire circoncire. Une fois que vous êtes circoncis, on vous accueille, vous serez bienvenus avec nous et la paix sera faite. Mais en réalité, derrière, vous savez très bien ce qui se passe. Enfin, moi, je ne le sais pas, je n'ai jamais été circoncis. Mais je crois que quand on se fait circoncire adulte, il y a quand même une certaine période où on n'est pas très à l'aise. Et donc, les hommes sont affaiblis. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, pendant qu'ils sont affaiblis, Siméon et Lévi, ils vont là-bas et ils les passent tous par le fil de l'épée. Sympathique, hein? Le plan, la vengeance, de... voilà, préméditation. Ils récupèrent leur sœur. Et encore une fois, Jacob, il dit rien. Alors, on va regarder. Alors, Jacob dit à Siméon et Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. » Vous vous rendez compte? Il se dit, « Mais j'ai la honte, bon, mes fils, ils ont trahi les Cananéens. » C'est la réaction de Jacob. Bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On est arrivé à la fin de ce chapitre. Une chose hyper importante au niveau du vocabulaire dans ce chapitre. Il y a un mot qui est totalement absent, c'est un nom. Qui? Dieu. Cherchez dans ce chapitre 34, Dieu est totalement absent. C'est la démonstration, ce chapitre, flagrante de ce qui se passe quand il n'y a pas de référence à Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, dans les chapitres 31, 32, un petit peu en avant, vous relirez. Pourtant, Jacob, il savait faire. Hein, quand il avait son frère Ésaü qui arrivait avec 400 hommes derrière, il a su se tourner vers l'Éternel. Il dit, comment je fais? Viens à mon secours. Mais là, dans ce chapitre 34, absence complète. Absence complète de Dieu. L'homme, sans Dieu, réfléchit, monte des plans qui sont ses plans, avec des conséquences. On voit aussi, et ça c'est un peu... C'est des passages qui me parlent beaucoup. On voit aussi la conséquence de l'absence de contrôle et la démission du chef, du responsable. Un responsable, quand il est responsable, qu'il soit responsable d'une église, qu'il soit responsable d'une association, d'une entreprise, d'un pays, eh ben, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Parce que s'il ne prend pas ses responsabilités, les autres ils disent « Oh, bah, t'as vu, il s'est passé ça, ils n'ont pas bougé, ils n'ont rien fait, qui ne dit mot consent, bingo, on y va. » L'irresponsabilité des responsables, du responsable, automatiquement provoque des conséquences. Démission du responsable, Jacob ne dit rien, n'intervient pas, ni pour le viol de Dina, ni dans le plan de vengeance échafaudé par ses fils. Pourtant, Jacob, physiquement, il n'était pas loin de Dieu. Il n'était pas loin. Une cinquantaine de kilomètres. D'accord? Il avait construit un hôtel à Sichem, là, dans le chapitre 33. pas très loin, mais bon, il a fait un petit détour. Il n'était pas loin, physiquement. Mais il se trouvait que Jacob, il n'était pas très près de Dieu au moment où tous ces événements se sont passés. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais voilà. Non seulement il accepte le viol de sa fille, il fait un traité avec ceux aussi où la pureté du peuple de l'Alliance serait perdue. Il le savait. Je veux dire, c'était clair, hein, le peuple choisi, pas d'alliance avec les autres. Il accepte, il y va. Jacob était près de Bethel, mais il n'était pas près du Dieu de Bethel pendant ce chapitre 34. Moi, ça me rappelle beaucoup de choses, hein. Parole de Dieu, miroir. Alors, qu'est-ce que ça peut me dire? Qu'est-ce que ça peut me parler? Quelquefois, on semble marcher auprès de Dieu. On peut essayer de préserver la forme, observer ce qu'il faut faire d'une manière pratique. Mais en réalité, la présence de Dieu, la référence de Dieu dans ma vie... Oh. Maman me disait quand j'étais petit, toi tu fais toujours ce que tu veux. Je disais toujours oui, oui. Mais en réalité, je faisais toujours ce que j'avais envie. Enfin, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose d'une manière personnelle, mais voilà. On continue, on fait toujours ça. Simplement, la place de Dieu dans ma vie... Eh ben, va pouvoir influencer, ou non, nos plans foireux, intellectuels, que l'on a naturellement. Alors, rappelons-nous, quel que soit notre état de conversion, là, ça faisait pas très longtemps hein, qu'il était né de nouveau, on va dire ça comme ça, Jacob. Hop, le déroulement, hop, le déraillement. Et après le déraillement... où l'éloignement, il peut venir tout doucement, naturellement. Mais, je m'arrête là. Le retour. Genèse 35. On passe à des choses plus intéressantes. Alors là, Genèse 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si je ne me suis pas trompé, 12 fois le mot Dieu est écrit dans le chapitre. D'après. Donc oui, le chapitre d'avant, Dieu totalement absent. Le chapitre 35, Dieu tout le temps présent. C'est aussi intéressant de voir, je ne développerai pas, mais ce chapitre 35, vous pouvez le voir un peu comme un journal, comme une liste de nouvelles qui rapporte plein d'événements. Dans ce chapitre 35, c'est intéressant de noter aussi les événements quand vous lisez un texte. Apparition de Dieu à Jacob. 2. La purification familiale. La protection de Dieu après les erreurs. L'adoration de Jacob. La mort de Déborah, nourrice de Rebecca. L'apparition de Dieu. Le changement de nom hein, de Jacob en Israël, voilà un événement. De nouveau l'adoration de Jacob. La naissance de Benjamin. Mort et funérailles de Rachel. Au passage, le péché de Ruben. Et encore une fois, silence de Jacob. Vous pourrez le relire dans ce chapitre 35. Retour vers ses racines, Isaac, il ne l'avait pas vu depuis sa fuite. Et puis, à la fin, mort d'Isaac, entouré par ses deux fils, la réconciliation. Hein? Alors, Dieu intervient. Ce chapitre commence par Dieu intervient. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y, et tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Hop, on revient en arrière. Alors, On peut se poser aussi la question, mais pourquoi Dieu, il a attendu tout ce temps pour intervenir? Pourquoi il n'est pas intervenu pendant le chapitre 34? Il aurait pu. Ben, je ne sais pas trop quoi vous répondre, mais peut-être on peut se dire que Jacob n'était peut-être pas prêt à entendre ce que Dieu voulait lui dire, et Dieu lui a parlé au bon moment. Et là aussi, ça nous renvoie un petit peu, des fois, on a l'impression que Dieu nous parle, mais on fait comme ça, quoi. Et Dieu intervient, Dieu nous parle, et ça porte du fruit quand c'est le bon moment dans nos vies. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire de tout ça? Les chrétiens, je, tu, vous avez, nous avons le choix. On a le choix. Jacob, il a combattu, il a rencontré Dieu, Dieu lui a parlé. Ça ne vous rappelle rien? Vous n'avez pas rencontré Dieu, vous? Dieu ne vous a pas parlé dans vos cœurs, un jour ou l'autre? Et pourtant, on a le choix, même en tant qu'enfant de Dieu, Jacob, on fait le choix, on fait des bêtises, on fait des âneries. Souvent, ben on le sait tous, hein, on peut. Alors, il y a un jargon, le patois de Canaan, qui dit on résiste à la volonté de Dieu. Mais on sait bien ce que c'est, d'une manière personnelle, ce que c'est que la volonté de Dieu. Ben, moi, je n'ai pas besoin qu'on me l'explique, hein. Je ne sais pas, vous, on a besoin qu'on vous fasse un plan, par A plus B, de savoir ce que Dieu veut pour vous. Mais on résiste. Je résiste. Mais heureusement, Dieu est patient. Alors, on voit qu'après l'appel, la première chose que fait Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il sort le balai, la serpillière, la javel, et il fait le ménage. Grandes eaux, nettoyage de printemps, de partout. C'est clair, il y avait plein de dieux, des boucles d'oreilles enterrées dans tous les coins, compromission, pff, ménage. Ça aussi, ça doit nous. Ça m'interpelle, c'est qu'avant de reconstruire quoi que ce soit avec Dieu, il faut faire le ménage dans sa vie. Sinon, construire sur du sable, ou sur, je ne suis pas maçon, mais sur des. Du béton fissuré où il n'y a pas assez de ciment, on se casse la figure. Je fais le ménage. On peut vraiment lire dans ce texte, dans l'opposition de ces deux textes, ce qui peut se passer au moment où on fait des choix et au moment où on revient dans le Seigneur. Ça veut dire que c'est un combat permanent, personnel, entre l'influence que Dieu peut avoir dans ma vie et l'influence que je peux avoir dans ma vie. C'est pas facile. Quand on a un caractère un peu fort ou quoi que ce soit, quand on a des capacités de se laisser interpeller, de se laisser... plier le genou. Souvent, on dit « je plie le genou », on chante. Mais vous pliez souvent le genou, vous ? Moi, pas facilement. Hein. Surtout quand l'âge avance, les genoux sont raides, hein, Pierre. Voilà. Alors, on voit la fidélité de Dieu dans l'obéissance de Jacob, dans ce chapitre 35. Ça veut dire que les promesses faites à Abraham sont de nouveau renouvelées à Jacob. Dieu est un Dieu fidèle, et quand il a un plan pour toi, pour moi, pour ses enfants, ça c'est extraordinaire, c'est ce qu'il faut retenir, il va l'accomplir ce plan. Vous avez vu les chemins tordus que prend Jacob, puis vous voyez la parole de Dieu, David, tout ça. Et pourtant, tout ça va arriver, malgré toutes les erreurs humaines, le cœur tordu de l'homme. Ça va arriver, bien évidemment, après David, à la naissance du Christ. Est-ce que l'on a ce qui s'est passé pour nous? Ça veut dire que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons intérêt à suivre sa volonté pour ne pas en subir les conséquences terrestres. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Dieu pardonne nos péchés. Au pied de la croix, la grâce coule jour après jour pour ses enfants. Nous sommes pardonnés. Nous ne sommes plus condamnés. Jean-Lionel l'a rappelé tout à l'heure. Mais les conséquences de nos erreurs humaines, on se coupe un doigt à la tronçonneuse, on se fait soigner, mais le doigt, il est bien abîmé après. Hein. Bon, Daniel Rotuno est pas là, mais vous avez vu ses doigts, ils ont été bien réparés, mais quand même, ses petits doigts au bout, ils sont un petit peu abîmés. Le fait aussi que s'être éloigné pendant 10 ans de Dieu, eh bien pendant 10 ans, on n'a pas pu servir Dieu. Ceci nous rappelle, enfin me rappelle aussi, c'est que au moment de notre conversion, au moment de ma conversion, on dit souvent je suis devenu libre. Oui, mais je suis devenu libre au service de Dieu. J'ai simplement changé de maître. Et on voit bien dans ce chapitre 35, Jacob est redevenu son propre maître, 34, pardon. Et dans le chapitre 35, de nouveau, Dieu prend la prépondérance dans la vie de Jacob. Frères et sœurs, je ne veux pas aller bien plus loin. Ceci nous révèle au combien nos cœurs naturels sont tordus. Et ce n'est pas parce qu'on a 15 ans, 20 ans, 6 mois, 30 ans ou 40 ans de conversion que notre cœur naturel, le combat de la chair, il est toujours là. La seule chose qui influence nos vies, c'est le miroir de la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit en nous. Mais si on ne donne pas à manger, si on se nourrit, si je me nourris de plein d'autres choses, si j'oublie Dieu dans ma vie, les conséquences, c'est la gamelle. Alors, pour conclure, Dieu, il veut nous amener sur un chemin final qui s'appelle la sanctification. Et la sanctification finale, c'est quand on sera saint, c'est quand on sera... Enfin, on l'est déjà, mais la sanctification finale, c'est quand on sera avec lui, bien évidemment. Autre conséquence. Dans le Nouveau Testament, il est dit que nous sommes ambassadeurs de Christ, nous, enfants de Dieu sur terre. Je suis ambassadeur, tu es ambassadeur, ambassadrice. On transpire, on sent la bonne odeur de Christ. Ça aussi, c'est pas moi qui le dis. Comment sentir la bonne odeur de Christ en faisant comme dans le chapitre 34 quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, à la lecture de ces chapitres, de cette histoire de Jacob, eh bien, tout simplement, on doit veiller, faire attention, jour après jour, semaine après semaine. Il n'y a pas besoin de faire des grands trucs, des grandes études bibliques. La présence de Dieu dans ma vie, est-ce que c'est mon référent? Est-ce que quand j'ai à prendre des décisions, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai de la peine, quand je suis en joie, est-ce que je reviens constamment à lui? Est-ce qu'il est présent? Et il y a aussi quelque chose de merveilleux, c'est que Dieu est fidèle, Dieu garde ses enfants dans sa main et il a un plan pour chacun d'entre nous. Mais quelquefois, il emploie la houlette et le bâton. Je ne sais pas s'il y en a qui ont beaucoup connu dans cette assemblée, moi chaque fois j'y pense parce que je l'ai presque vu sur son lit de mort, c'était Valentin Makaïev. Cet homme-là, j'ai vu une ou deux fois ici donner son témoignage, je ne vous explique même pas. Quoi. Ce gars-là, il avait entendu, il était né dans les églises, hein, Pierrot, il connaissait tout. Bon, mais bon, il faisait ce qu'il voulait. Il faisait ce qu'il voulait. Il avait tout compris, il avait donné son cœur au Seigneur, mais il faisait absolument ce qu'il voulait. Il est parti au service militaire en Afrique, je crois. Il conduisait une Jeep, il a eu un accident, cartonné, fracassé. Il est devenu, je ne sais pas combien, il était... Voilà. Dieu a pris un grand coup de bâton sur cet homme. Il a donné un témoignage extraordinaire toute sa vie. Il est devenu un responsable d'une église dans le sud-ouest. Et vraiment, peut-être, je ne regarde personne, mais autour de vous, autour de nous, on a tous des frères ou des sœurs ou des gens qui ont rencontré le Seigneur, on est persuadés qu'ils ont connu, qu'ils sont partis. Prions pour eux. Parce que quand l'Éternel va récupérer ses enfants, quelquefois, le coup de bâton, il est raide et il est dur. Et si Dieu fait ça, c'est pour sauver, pour protéger ses enfants. Si vous voulez des détails, vous demanderez à Pierrot plus que moi à propos de ce Valentin Makaïev qui habitait à la Croix-Rousse, n'est-ce pas? Hein, c'est pas d'aujourd'hui.
Il y a même une cassette.
Voilà. Pour dire, chapitre 34, chapitre 35, Dieu est fidèle si tu as... la fin du chapitre 32. Voilà, 29 et 30. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Et Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, tu as vu Dieu face à face, fait exprès de dire tu, et ton âme a été sauvée. Ça veut dire qu'à cet instant-là, Jacob a été sauvé. À l'instant où tu as donné ton cœur à Christ, tu as été sauvé, tu es sauvé. Mais... première question, es-tu sauvé? Et après, ben, il vaut mieux essayer de faire un peu comme le chapitre 35. Essayer au moins de faire, on le voit bien, hein, ce qui s'est passé dans le peuple d'Israël, l'histoire, et puis dans nos vies, voilà. Donc, je m'arrête là, mais vraiment, soyons exhortés à garder Dieu présent dans nos vies. C'est pas facile dans les combats, dans les difficultés. C'est pas facile dans notre monde du 21e siècle, en France particulièrement, où malgré ce qui peut se passer, on a le confort, on a absolument tout. Le monde occidental a peu ou pas besoin de Dieu. Donc soyons nous aussi vigilants. Soyons vigilants. Amen. À qui est-ce que je vais demander? Marc, est-ce que je peux te demander de prier pour terminer?